Bonjour messieurs, dames, bienvenue à ce nouveau numéro des Panoramas économiques sur Radio Okapi. Les titres, le social d'un peuple ne se décrète pas, mais il se vit en République démocratique du Congo et selon le Premier ministre, quelques membres de son gouvernement et les partenaires au développement devant la presse cette semaine à Kinshasa, le social du Congolais s'améliore. Le revenu du Congolais moyen est passé de 149$ l'an en 2001 à aujourd'hui 600$ l'an. C'était le mercredi dans une évaluation de l'action du gouvernement. La coordination de la Fédération des entreprises du Congo au Ouélé en province orientale appelle la société civile de ce district à lever la mesure de suspension de paiement de toutes les taxes et autres redevances étatiques qu'elle a lancées depuis le 15 février de l'année en cours. La FEC au Ouélé lance cet appel après avoir signé avec l'exécutif provincial un protocole sur la réhabilitation de la route Isiro-Niangara longue de 132 km et dont le coût est évalué à plus d'un million de dollars américains. Et la production du poisson qui a augmenté au Nord Kivu ces deux derniers mois au niveau du lac Édouard. Le constat est fait par les comités de pêche de Vichumbi et de Nyakakoma en territoire de Rutshuru. Voilà pour les titres qui vous seront développés dans un instant. Notre invité s'appelle Maître Constant Mutamba. Il est avec nous dans ce studio. Maître, bonjour et bienvenue à ce plateau de Panorama Économique.
Merci, bonjour Monsieur Daniel et merci pour l'invitation.
Panorama Économique, le dossier.
Le social d'un peuple ne se décrète pas, mais il se vit. Et en République démocratique du Congo, cela passe par les indicateurs comme le produit intérieur brut qui signifie le revenu du Congolais moyen par an. En moyenne, cet indicateur est passé de 149$ l'an en 2001 à ce jour, 600$ l'an. Le chômage est réduit à 40% et l'indice du développement humain s'est amélioré.
Le Premier ministre l'a dit mercredi à Kinshasa devant la presse et les partenaires au développement. La paix et la sécurité retrouvées, a dit Matata Ponyo, ont permis au pays de stabiliser son économie et devenir attrayant aux investisseurs. Le ministre de l'économie, qui a représenté son homologue de transport à cette tribune, a annoncé pour le 30 juin prochain le premier vol inaugural de la compagnie nationale d'aviation.
Le premier vol de la nouvelle compagnie aérienne de la RDC, Congo Airways, aura lieu le 30 juin 2015. C'est le ministre de l'économie Modeste Bahati qui l'a annoncé lors de cette évaluation en lieu et place de son homologue Kalumba empêché. Dans ce secteur de transport, justement, le gouvernement a brandi la création de Transco et Esprit de Vie à côté de Congo Airways comme des projets qui vont améliorer les conditions de transport en RDC s'ils sont disséminés sur toute l'étendue du territoire national. La relance de la SNCC et la remise à flotte de l'ITB Kokolo en sont d'autres réalisations présentées par le gouvernement. Le ministre des Infrastructures a parlé de l'interconnexion de 72 territoires et villes du pays sur les 159 que compte la RDC. Cela grâce à 21 000 km de routes réhabilitées sur les 153 000 que constitue le réseau routier de la RDC. L'ambassadeur de l'Union européenne qui appuie le gouvernement congolais dans plusieurs secteurs, dont celui des infrastructures, a dit que son organisation a mis un paquet de 620 millions d'euros disponibles pour continuer son partenariat avec le gouvernement. Le ministre de la fonction publique, lui, s'est réjoui du processus de recensement en vue de la maîtrise des effectifs de fonctionnaires de l'État, près de 700 000 salariés bancarisés et le défi qui lui reste, c'est de réussir à équilibrer les salaires et les primes encore disparates entre les fonctionnaires de Kinshasa et de ceux de l'intérieur du pays. Parlons aussi de ce compromis entre le gouvernement et l'intersyndicat de l'administration publique. François, les deux parties se sont mises d'accord pour l'ouverture des travaux de la commission paritaire.
C'est un compromis trouvé le week-end dernier à Kinshasa entre le ministre de la fonction publique et les délégués de l'intersyndical. Dans leur cahier de charges, les fonctionnaires de l'État exigent, entre autres, l'augmentation de leur salaire. Le président national de l'intersyndicat de l'administration publique, Fidèle, qui en dit... était Jean au téléphone par Radio Capi.
Le salaire du fonctionnaire de l'État aujourd'hui, vous savez que le moins payé a un salaire de 67 000 francs congolais, plus un transport de 9200. Ça, nous disons que ça ne peut plus exister. Et à côté des soins médicaux, vous avez la retraite. Lorsque le fonctionnaire part à la retraite, il va comment? Dans quelles conditions? La retraite est devenue comme une punition pour un fonctionnaire. Ce sont toutes ces choses-là qui constituent les cahiers des charges des agents et fonctionnaires. La bancarisation, ce n'est pas un avantage de bancariser les salaires. Les comptes bancaires, ce n'est pas un luxe. C'est rien, ça. Chaque agent pouvait bien ouvrir son compte. Nous demandons qu'on puisse revoir à la hausse les salaires du fonctionnaire pour que ça lui permette de pouvoir vivre décemment. C'est ça le problème. C'est vrai qu'on ne va pas qu'au fonctionnaire aujourd'hui le salaire de 300 000, 400 000 parce qu'il a 67 000, mais commençons quelque part, mettons en place quelque chose que nous allons commencer à évaluer de temps en temps.
Une petite pause pour donner la parole à notre invité, Maître Constant Mutamba, qui est avec nous dans ce studio. Maître, vous avez suivi cette évaluation du gouvernement. Et dans cette évaluation, la bancarisation est une bonne chose qui vient améliorer un peu les conditions de vie, le social du Congolais. Et puis, vous avez suivi ce deuxième élément qui a suivi l'intersyndicat qui dit non, gouvernement, parti syndical, on doit s'entendre, on doit revoir à la hausse ce salaire. Ça ne sert à rien de bancariser quelque chose de si minime comme les 67 000 francs congolais. Vous placez un mot rapidement avant de prendre la suite de cette émission.
Monsieur Daniel, très rapidement, pour commencer par l'évaluation du gouvernement Matata, c'est bien beau que l'on ait évoqué tous ces chiffres. Le gouvernement de la République actuellement est plus focalisé, sinon mieux expérimenté dans les évaluations des chiffres théoriques. Pourquoi je dis chiffres théoriques? Parce que je me pose la question sur le pouvoir d'achat aujourd'hui du panier de la ménagère. Ma mère, quand elle va au marché par jour, combien dépense-t-elle? Est-elle en mesure de pouvoir s'acheter, remplir...
Ça, le gouvernement le reconnaît.
Son panier de la ménagère. Je ne pense pas. Donc, le pouvoir d'achat de la population du Congolais lambda est encore à décrier. Au-delà de ça, j'ai aussi entendu parler de la création d'emplois. Écoutez, et avant de pouvoir parler de création d'emplois, il faut d'abord s'interroger sur le nombre de demandeurs d'emploi qu'il y a. Combien de demandeurs d'emploi il y a en RDC et combien d'emplois ont été créés?
Le Premier ministre estime que c'était à 60%. Je sais 60% de quel chiffre. C'est réduit à 40%.
Écoutez, c'est beaucoup plus facile de parler en termes de pourcentage. Lorsque on gère la République, on doit également être sensible, n'est-ce pas, aux détails. Ce qui nous intéresse ici, nous, Congolais lambda, ce sont les détails. Et donc, par rapport à la création d'emplois, je pense que nous ferions mieux d'éviter plus des théories. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que l'on a dit, le rapport du gouvernement fait état des 149
dollars
l'an à 2001, à aujourd'hui
600 dollars l'an de
PIB. Mais c'est très très bien beau. Mais écoutez, lorsque c'est quoi le PIB, les produits intérieurs bruts? Mais lorsque vous devez calculer cela, le diviser par 12, vous avez combien? Vous avez 50 dollars le mois. Vous le divisez maintenant par 30, vous avez combien? Vous avez plus ou moins 1,6 à 7 dollars dont dépend et vit le Congolais lambda par jour. C'est bien ridicule. Et donc, évoquer ces genres de chiffres, moi je pense, est-ce que vous pouvez aujourd'hui me rassurer que vous pouvez à Kinshasa vivre avec 1,57 dollars le jour? Le Congolais était déjà mort et n'attend plus qu'à être enterré.
Nous prenons la suite de Panorama économique et nous nous rendons à Manono dans le nord Katanga où les habitants se plaignent de la baisse de leur pouvoir d'achat.
Voilà, c'est une situation causée par la chute de prix de minerais de coltan et de la cassitérite de 6000 francs le kilo. Il y a un mois, le prix de ces minerais vient de passer à 4500 francs. Explication expédie Mamba Moubi.
De 6 000 francs à 4 500 francs le kilo de cassitérite, Il n'en fallait pas plus pour que cette baisse ne décourage les creuseurs artisanaux de Manono. C'est le constat fait par l'administrateur de territoire, François Kazembe.
Les creusés ne sont plus nombreux. Et il y a maintenant rareté des minerais. Quand il y a baisse des prix sur le plan mondial, cette baisse des prix-là fait que ça puisse décourager les gens à faire les minerais.
Il n'y a pas que la diminution du nombre des creuseurs artisanaux. La chute du cours de la cassitérite sur le marché international a entraîné également la fermeture de plusieurs comptoirs d'achat. Et puis, parmi les quelques comptoirs qui résistent encore, certains n'acceptent plus que les minerais mélangés.
Les produits mixtes, c'est-à-dire, on voit la cassitérite mélangée au comptoir, quand vous séparez, ils n'achètent pas ça. Comme les négociants et les creuseurs ne savent pas où aller avec leurs minerais, ils sont obligés de le faire comptoir.
Dans les magasins et boutiques de Manono, au marché central, et même dans les foyers, l'ambiance est également morose.
Par là, nous pouvons bien parler d'une diminution totale du pouvoir d'achat dans le marché local. Il y a des marchandises qui prennent dans leurs magasins, mais sont supplées. Parce qu'il n'y a plus la circulation de l'argent. De B, ces mêmes compétences touchent aussi l'éducation. Dans certaines écoles, comme les enfants du primaire, passent les examens. Il faut voir comment les enfants doivent être chassés à cause de la prime.
Notez que la chute des prix de la cassitérite et du coltan a toutefois des effets bénéfiques sur l'agriculture à Manono, avec le retour dans ce secteur de plusieurs jeunes, hier encore, attirés par l'exploitation artisanale des minerais. Kalemi, Exfeli Mwambamoubi pour Écho d'économie.
D'une province à une autre, par contre, au Nord Kivu, c'est l'allégresse. La production de poissons a augmenté ces deux derniers mois. C'est au niveau du lac Édouard.
Voilà, le constat est celui du comité de pêche de Vichumbi et de Nyakakoma, un territoire de Rutshuru. D'après ce comité, à défaut d'un mécanisme standard d'évaluation, cette augmentation est estimée par rapport au nombre de captures par unité de pêche ou de pirogue par nuit, mais aussi par rapport à la taille de poisson d'espèce tilapia capturée.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Les autres informations de la semaine en bref, au Katanga, l'ONG Padolik, plateforme de droits de l'homme de l'Ikasi, section de Mulungusha, a lancé depuis mardi, à une vingtaine de kilomètres de la ville de l'Ikasi, la campagne de récolte de produits vivriers. Près de 500 hectares de maïs et d'arachides seront récoltés et vendus à moindre frais aux populations environnantes. Ce sont les déplacés venus de Mitwaba et de Bukenya qui ont réalisé cet exploit.
Et puis parlons de la réhabilitation en cours de la route de desserte agricole qui est motif de soulagement pour les habitants de Mbankana. Il s'agit de 23 kilomètres de route qui relie la nationale numéro 1 à plusieurs villages aux alentours de Mampou et Kinzono. Nous sommes à plus de 150 kilomètres à l'est de Kinshasa. Le coût de travaux n'a pas été révélé à la presse. Mais le moins à savoir, c'est que Mampou est la première expérience de l'agroforesterie en RDC. Plus de 300 familles vivent sur ces sites, chacune travaillant sur une parcelle de 25 hectares. Et grâce à toutes ces activités, une famille peut gagner entre 2500 et 3500 dollars chaque année. Voilà qui peut justifier l'importance de cette route dont la détérioration a alarmé les agriculteurs.
Nous allons nous rendre en province orientale où l'activité était abondante. Cette semaine, les activités sont paralysées depuis 3 jours dans cette partie de la République et dans tous les services étatiques de Baillé. C'est un poste d'encadrement administratif dans le territoire de Bondo. Les agents et fonctionnaires de l'État, de ces différents services, ont tous abandonné leur poste depuis jeudi. À l'origine, la découverte d'un puits d'or qui leur permet de se faire plus d'argent. Toujours en province orientale, la coordination de la Fédération des entreprises du Congo, OULE, qui appelait la société civile du même district à lever la mesure de suspension de paiement des taxes et autres redevances étatiques. Cette mesure est en vigueur depuis le 15 février dernier. Célestin Bekabissia a lancé cet appel au cours d'une réunion de restitution du protocole d'accord signé entre la FEC Ouélé et la province orientale. Protocole sur la réhabilitation de la route Isiro-Ounyanya, longue de 132 km et dont le coût est évalué à 1 335 826 $ américains. Bon, je vous le dis, notre invité, c'est un spécialiste de la province orientale et c'est l'occasion maintenant, c'est le moment est venu hein, pour essayer de parler de cette province, la province orientale, Maître Constant Mutamba, par rapport à cette actualité dans la province orientale. Les fonctionnaires qui débrayent un peu, qui vont chercher de l'or, c'est que ça ne marche pas. Et puis, la FEC qui demande à la société civile de lever finalement sa mesure, que la population reprenne avec le civisme fiscal. Qu'est-ce que ça vous donne comme commentaire pour cette partie?
Mais tout d'abord, il faut saluer naturellement la mesure prise par la Fédération d'entreprises du Congo au niveau de la province orientale, levant ainsi la mesure sur
la suspension de la paye, ouais.
Voilà, l'incivisme fiscal.
Mais c'est comme ça que vous pouvez l'appeler, mais incivisme, lorsque on paye quand même sa taxe, on paye l'impôt, il faut qu'on voit quand même les retombées. À quoi ça sert?
Écoutez, Monsieur Daniel, il y a eu beaucoup d'avancées depuis l'avènement de l'actuel gouvernement dirigé par le gouvernement Bamanissa. Il y a eu beaucoup trop d'avancées.
Mais sinon, il n'aurait pas cet appel de la société civile.
Absolument. Il y a les gens qui ne sont pas suffisamment informés des performances réalisées par le gouvernement provincial de cette province. Parce que je vous informe que depuis 2013, l'investiture de ce gouvernement, il y a eu plus de 350 km de routes réhabilitées sur fonds propres du gouvernement provincial.
Elles partent d'où à où, ces routes?
Ces routes partent tout naturellement d'abord centre-ville de Kisangani, parce qu'il fallait viabiliser le chef-lieu de la province. Il y a eu la route aéroport Bangoka, la route Simisimi, toujours à Kisangani. Il y a eu Kisangani-Bouta, il y a eu Kisangani-Nyanya.
Et nous pensons que les auditeurs de Radio Kassai qui nous écoutent dans cette partie de la République
peuvent les témoigner.
Okay.
Absolument, Nyanya, la route Nyanya-Wamba, Wamba-Iziro, et là nous sommes dans le district de Haut-Ouélé.
C'est que tout marche bien.
En dehors de cela, justement, tout marche bien, mais pas totalement bien parce que le gouvernement provincial est tout autant buté à un problème de rétrocession. Je vous informe
Justement, Maître Constant, avant d'évoluer...
Je vous en prie.
Si la société civile a lancé cet appel à l'incivisme que vous qualifiez de l'incivisme, mais moi, quand je paye mon impôt, j'aimerais quand même que je devoie au retour qu'il y ait un service qui me soit rendu. C'est suite à cet ascenseur qui ne revient pas que la société civile, parce que les routes ne sont pas réhabilitées et les hauts où elles étaient enclavées. C'est pourquoi la société civile a demandé aux gens de ne plus payer.
Très bien. Écoutez, il y a un bémol que je dois tout de suite relever. Une confusion à lever de la tête de tous les ressortissants de la province orientale et congolais en général. Vous savez que il existe en RDC, par rapport aux lois en vigueur, des recettes à caractère provincial et des recettes à caractère national. Concernant les recettes à caractère provincial, elles sont bien entendu perçues par une direction financière provinciale dénommée DGRPO, la Direction Générale des Recettes de la province orientale. Vous savez que ce gouvernement avait trouvé ces recettes à 2 milliards de francs. En 2013, il les a ramenés à 4 milliards, en 2014 à 8 milliards. On prend maintenant les recettes à caractère national. Pour ce qui est de la DGRA, je vous informe que l'actuel gouvernement provincial sous l'impulsion de Bamanissa a trouvé les recettes de la DGRA à 2 millions, les a ramenés à 3 millions en 2013, puis à 17 millions en 2014.
De francs congolais,
des francs congolais. Et par rapport à la DGI, le gouverneur Bamanissa et son équipe ont trouvé les recettes directe de la DGI à 8 milliards, les défunts congolais, les a ramenés à 14 milliards, puis à 28 milliards. Et enfin, pour ce qui est de la DGDA, puisqu'il est important pour la population de savoir, le Bamani Sahé, son équipe, le gouverneur, ont ramené, n'est-ce pas, les recettes de 10 milliards, pour les décupler directement à 93 milliards de francs, puis à 83 milliards, ce qui représente donc au total 136 milliards de francs congolais. Donc, les recettes à caractère national sont parties de 21 milliards à 136 milliards. Où vont maintenant ces recettes-là? Oui. Où va cet argent? C'est justement la question que devait se poser la population d'aujourd'hui.
Justement, mais ben c'est...
Écoutez,
mais
lorsque tout cet argent est envoyé au niveau du pouvoir central. Au niveau du pouvoir central.
Donc là, vous voulez revenir à cette plainte de province par rapport à qui c'est ça qui ne possède pas assez.
Magnifique, magnifique. La Constitution, sur l'article 175, pas plutôt de la retenue à la source des 40%. Malheureusement, cela n'a jamais été respecté. On parle plutôt abusivement de la rétrocession. Alors, faudrait-il alors respecter cette rétrocession de 40%? Quand cet argent arrive à Kinshasa avec ses de croissance exponentielle, n'est-ce pas?
C'est vous qui
les recettes? Non, ce n'est pas moi, ce sont les chiffres que je viens
que nous n'avons pas vu.
Je viens de vous donner. Il y a un ouvrage qui sortira tantôt sur le bilan du gouvernement provincial. Alors, j'étais en train de dire, quand l'argent arrive à Kinshasa, Kinshasa devait rétrocéder 40%. Mais qu'est-ce qui arrive comme rétrocession? Je vous apprends qu'en 2013, il n'y a que à peine 18 milliards de francs congolais, n'est-ce pas, qui arrivent contre en 2014 19 milliards. Cela représente quoi en réalité? En réalité, ça représente 16 à 14%, n'est-ce pas, des recettes à caractère national générées par les régies financières nationales se retrouvant en province orientale. Et, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Et ce, essentiellement pour le fonctionnement aussi bien des institutions provinciales, des ETD, que
et puisque évidemment Kinshasa, certains c'est, services c'est parce que Kinshasa publics. Ne rétrocède pas assez donc, que les fonctionnaires de l'État vont débrayer pour aller chercher de l'or.
Donc, tout naturellement, je vous ai dit tantôt qu'il n'y a que 18 milliards rétrocédés en 2013 et 19 milliards rétrocédés en 2014. Alors que en réalité, les recettes générées sont passées de 21 milliards à 136 milliards. Écoutez, cette rétrocession-là...
C'est un plaidoyer alors là que
vous... Cette rétrocession-là est destinée à quoi? Est destinée essentiellement au fonctionnement des institutions provinciales, comme je l'ai dit, Assemblée provinciale, gouvernement provincial, entités territoriales décentralisées,
oui.
Qui sont villes, communes, secteurs, chefferies. Il y en a autant en province orientale, parce que je vous informe que dans son format actuel, la province orientale mesure plus ou moins 503 000 km², donc la plus vaste de la République, en attendant les subdivisions territoriales. Alors, il est important de savoir que le gouvernement provincial, en dépit de tous ses resserrements, en dépit de la modicité de la rétrocession, a pu, dans la mesure du possible, réhabiliter autant de kilomètres des routes sur fonds propres. Et j'en viens...
Et justement, si puisse vous revenir sur cette réhabilitation de routes, mais en tout cas, nous aussi, Radio Capi, on est informés quasiment chaque semaine qu'il y a tel problème à tel coin parce que les routes ne sont pas réhabilitées, les fonds nerfs, on ne sait pas comment ils gèrent le fonds que génère cette
une très
institution.
Bonne question. Ouais. Une très bonne question, M. Daniel.
Le fonds nerf en province orientale, qu'est-ce que ça fait de l'argent?
Depuis l'avènement de l'actuel gouvernement sous l'impulsion du gouverneur Bamanissa, le FONER n'a pu rétrocéder à la province orientale que jusqu'ici 4 millions de dollars. Donc en deux ans, depuis 2013, le FONER n'a rétrocédé que 4 millions de dollars.
Et les 4 millions de dollars ont construit combien de routes?
Très bien. Divisons maintenant les 4 millions de dollars par 24, parce que c'est en deux ans. Ça vous fait combien? C'est plus ou moins 168 000 dollars. Combien coûte la réhabilitation d'un kilomètre des routes? Vous vous renseignez bien pour l'asphaltage. Nous sommes déjà dans...
Mais ce n'est pas des routes asphaltées que vous faites.
Non, je suis en train de vous parler méthodiquement. Pour l'asphaltage, déjà c'est dans pas moins de 90 à 100 000 dollars, 150 000 dollars au besoin le kilomètre, je dis bien. Et donc pour juste la réhabilitation des routes en terre, nous sommes dans pas moins de 50 à 55 000, voire 45 000 dollars. Alors, calculez et vous allez me dire combien pouvait-on réhabiliter avec le 4 millions seulement de dollars.
Maître Constant, je sais qu'en province orientale, il se développe aussi un projet aussi important que le projet Kibali Gold Mine. C'est un projet minier. Ça génère aussi beaucoup de recettes pour la province. Qu'est-ce qu'on a fait?
Mais, Monsieur Daniel, là encore, il y a un problème.
Lequel?
Un réel problème. Le code minier, spécialement en son article 242, fixe la clé des répartitions de la redevance minière.
Mmh. Okay. Disposition... La province ne se retrouve pas à travers cette répartition.
Pas du tout.
Ça veut dire que
La loi prévoit l'automaticité, n'est-ce pas, de la répartition de 2,5%, n'est-ce pas, de la redevance minière. OK, sur toute exploitation.
Mais qu'est-ce qui
Kibali exploite justement, a lancé sa production.
Oui.
Je vous informe que en principe, il fallait que la province, de manière automatique, au regard des dispositions de la loi, puisse se voir rétrocéder 40% des 2,5% de la redevance minière. Je dis bien de manière automatique. L'article
500
parle de l'automaticité.
Il n'y a pas de respect.
De l'automaticité. Mm-hmm. Malheureusement, depuis tout ce temps, rien n'a été fait. Ce qui fait alors qu'aujourd'hui, par rapport à la redevance minière, le gouvernement central, par entremise précisément du ministère de Finances, parce que par rapport aux modalités des répartitions, c'est le ministre des Finances qui est responsable. Et donc, le gouvernement central doit plus ou moins à ces jours 9 millions de dollars
de
redevances minières
seulement
à la province orientale. Il faut aussi noter que ces 9 millions de dollars à titre de représentant donc les 40% sur les 2,5 sont également répartis de la manière suivante: 25 pour la province et puis 25 pour l'ETD, l'entité territoriale décentralisée où est exercée ou est exploitée cette mine. Mais il faut également noter que il y a le 1% que perçoit le CEC, n'est-ce pas, à titre...
Le centre d'expertise.
D'expertise et d'évaluation, expertise, certification. Écoutez, la province devrait également avoir un droit plus ou moins de 40%. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le CEC devrait, en principe, doit à la province plus ou moins 2 millions de dollars. Donc vous comprenez que la province a mené autant de démarches pour pouvoir y arriver sans succès. Il faut également noter...
Oui.
Il faut également noter,
Il nous reste moins de deux minutes,
le crédit d'investissement. Quand on fait crédit d'investissement,
la province orientale
en 2013 ne bénéficie que de 365 millions de francs congolais contre 591 millions de francs congolais. Sur combien? Sur 44 milliards de francs congolais contre en 2013, exercice budgétaire 2013, contre 65 milliards de dollars prévus par le budget exercice 2015. Ce qui représente en réalité combien? Vous comprenez que ça représente en réalité 0,82% pour 2013 contre 0,86% de budget exercice 2014. Dites-moi concrètement, comment un gouvernement provincial peut-il relever autant de défis de la population avec ça?
Et nous allons
il faut quand même noter que par rapport au crédit, à la consommation de ces crédits d'investissement,
quelles sont les réalisations?
Absolument, par rapport à cela, aujourd'hui, il y a plus ou moins 29 marchés de fourniture et des travaux qui sont en souffrance de financement au ministère du Budget et des Finances, mais qu'il est important de savoir que le gouvernement provincial s'est encore une fois de plus dépassé en resserrant la ceinture pour arriver à faire financer plus ou moins 12 marchés, représentant combien ? Représentant plus ou moins 2 milliards de francs congolais. Et donc, depuis 2014, il y a eu des performances exponentielles en matière de mobilisation de recettes, en matière de reconstruction de routes, en matière de construction de bâtisses et tout au profit de la population.
Nous vous le concédons et nous comprenons que c'est un avocat, un homme de droit qui parle. Merci beaucoup, Maître Constant Mutamba, d'avoir répondu à notre invitation. Panorama économique se termine. Retrouvez l'émission sur www.radioocapi.net et si vous voulez nous écrire, écrivez à echo@radioocapi.net. Et très bonne fête de Rameau à toutes et à tous.